Bonjour, ici Eugénie Francoeur, coach en santé globale, ex-journaliste et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit à la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Mieux vivre aussi avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite la bienvenue sur le balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers ces balados, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse vous inspirer, vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que mon enthousiasme et ma croyance se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». C'est un bonheur de vous retrouver. Dans ma pratique de coaching, un des problèmes dont mes clients et mes clientes me parlent souvent, c'est celui de l'insomnie. C'est un sujet que je connais trop bien car j'ai souvent eu des enjeux, et j'en ai encore par moments, plus ou moins sérieux avec mon sommeil. Je me suis donc beaucoup intéressée à ce sujet et au fil du temps, j'ai découvert plusieurs trucs et astuces, des petites choses pour m'aider à mieux dormir ou bien tout simplement accepter que je dors pas. Mon coffre à outils déborde de petites choses que nous pouvons faire le jour, le soir, la nuit pour mieux dormir. Pour en parler, mon invité est le pharmacien André Perrault. Lui-même ex-insomniaque, c'est un sujet qu'il a exploré de fond en comble et qu'il maîtrise bien. Vous verrez, c'est très concret. Dans cet échange, André nous dit « Ainsi va notre journée, ainsi ira notre nuit ». C'est simple, mais on ne pense pas tout le temps qu'on peut préparer la nuit à venir pendant notre journée. André Perrault est un professionnel qui compte plus de 46 ans d'expérience, dont 44 comme pharmacien propriétaire. Il a acquis 6 pharmacies entre 1979 et 2021. Son grand intérêt pour la santé humaine et son ouverture d'esprit l'ont amené à explorer l'univers des médecines douces, obtenant en 1972 un diplôme en massothérapie. Puis en 1979, il devient docteur en acupuncture et en 1980, naturopathe. En 2016, il obtient comme pharmacien une spécialisation en produits de santé naturelle. Il fut le tout premier diplômé de l'Académie de l'apothicaire. Fortement convaincu que la culture de la santé est appelée à changer au Québec, il s'implique pour la promotion de saines habitudes de vie, des connaissances en santé du vieillissement et pour les meilleures pratiques de prévention dans la population. Dans la dernière année, il a participé à 10 émissions télévisées comme chroniqueur hebdomadaire de la première saison de la série « La santé autrement », présenté plusieurs conférences sur le sommeil, la fibromyalgie, les douleurs chroniques et le processus de vieillissement chez les personnes âgées. J'espère vraiment que ces informations vous seront utiles. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide avec votre sommeil, n'hésitez pas à me contacter. Bonne écoute! Bonjour André, merci d'avoir accepté mon invitation. Toi, tu es pharmacien de profession, tu étais pharmacien de nombreuses années. Et depuis, tu t'es mis aussi à t'intéresser au sommeil. Je suis curieuse de savoir pourquoi le sommeil t'intéresse. Est-ce que c'est un truc personnel ou c'est parce que tes clients à la pharmacie te posaient des questions?
Ouais, ben je dirais que c'est carrément personnel dans le sens que dans les années 80, à un moment donné, j'ai eu 3 pharmacies en même temps, beaucoup de stress. Puis honnêtement, les nuits de sommeil, c'était à peu près des 5 heures, là, tu sais. Je me couchais à minuit, je me levais à 6 heures le matin, puis je trouvais ça difficile. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, là, j'ai beau me penser que je suis pharmacien, puis je sais tout, là, mais c'est pas vrai, je vais demander à mon médecin de famille, à l'époque, de me diriger. Okay. Alors, c'est sûr que mon médecin m'a dit, bah, écoute, moi, je vous conseille d'aller passer une polysomnographie, puis vous pouvez me demander de une aide, une clinique de sommeil à l'hôpital Sacré-Cœur. J'habitais à l'île Bizarre dans le temps, c'était pas tellement loin. Fait que je me suis inscrit. Évidemment, à l'époque, les attentes étaient moins longues. C'était à peu près 3 mois d'attente.
OK.
C'était pas pire. Mm-hmm. Et puis, je me suis embarqué dans ce qu'on appelle aujourd'hui là, la thérapie cognitivo-comportementale. Puis moi, je suis allé dans les programmes de groupe. Parce que comme pharmacien, je trouvais ça intéressant de voir d'autres personnes, quels étaient leurs problèmes à eux. Alors, on était un groupe d'à peu près une quinzaine de personnes et une fois par semaine, on se réunissait. Ça durait, mettons, 2 heures. Puis, il y avait une médecin spécialisée dans les problèmes de sommeil. Puis là, bon, il y en a qui prenaient des somnifères, il y en a d'autres qui c'était autre chose. Puis, chacun avait ses problèmes. Puis, à chaque rencontre, on abordait un sujet. Et puis, quelque part, à l'intérieur de la formation, on avait une polysomnographie. C'était chacun notre nuit. Et puis après la polysomnographie, on allait voir le médecin qui l'interprétait, qui nous rencontrait.
C'est quoi ça? Juste pour être sûr que tout le monde comprenne. La polysomnographie, on va dormir dans un,
ben, dans un hôpital. Moi, c'était l'hôpital Sacré-Cœur.
Et là, on nous met des électrodes, on se fait connecter de partout.
Exactement. Puis, mettons, on arrive en connaissance à 10 heures le soir, on ferme les lumières, puis à 6 heures le lendemain matin, on te réveille. Et c'est là que j'ai eu un premier choc.
Mais c'est stressant dormir avec ça.
Premièrement, c'est stressant parce que t'es pas bien installé, t'es connecté, puis tu peux pas te placer comme tu veux. Mais là, le premier choc que j'ai eu, c'est que on te demande après d'estimer combien de temps tu as dormi. Alors moi, j'ai dit, écoute, si j'ai dormi 2 heures, c'est beau. J'étais tout le temps réveillé, j'ai pas dormi, j'ai pas bien dormi. Évidemment, quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'on m'a dit, bah, non, vous avez dormi 5 heures et demie. Quand même. C'est pas pire. Alors, tout de suite, ça m'a donné un indice que probablement que beaucoup de gens surestiment leur insomnie.
Et... Oui, non, mais ça m'amène la question, parce que ce dont tu parles, ça m'arrive aussi, puis finalement, on se rend compte qu'on a de l'énergie pour fonctionner le lendemain. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de pas dormir, puis qu'en fait, on dort?
Bien, c'est simple, c'est que quand on regarde justement une espèce de polysomnographie, on s'aperçoit que dans une nuit, c'est composé de 4 à 6 cycles qui vont durer de 90 minutes à 100, 120 minutes, et c'est entrecoupé de micro-réveils. OK? Et c'est là que je dis aux gens, un des conseils importants, moi, la première chose qui m'a le plus aidé, c'est de prendre le cadran là, lumineux là, puis de le tourner de bord. Pourquoi? Parce que, imaginons quelqu'un qui a 4 cycles dans la nuit. Alors, tu te couches, disons, on a quelqu'un qui se couche à minuit, qui se lève à 8 heures. Alors, évidemment, à minuit, tu te couches, tu dis, ah bon, je me couche, il est minuit. Puis là, tu as un micro-réveil à 2 heures, puis là, tu regardes ton cadran, tu dis, oh, il est 2 heures, je dors pas. Après ça, tu te regardes à 4 heures, tu dors pas. Tu te regardes ton cadran à 6 heures, tu dors pas. Tu te lèves à 8 heures, ton cadran sonne. Là, tu te dis, j'ai pas dormi de la nuit. Alors qu'en fait, entre minuit et 2 heures, j'ai probablement dormi 1 heure 45 minutes, là.
OK.
Mais quand ton cerveau est dans la phase du stade 3 du sommeil profond, t'as pas de notion du temps, là. T'es à off. Alors, ce qui arrive, c'est que tu finis ta nuit et tu pars déjà en disant, mon Dieu, que je vais passer une mauvaise journée, j'ai mal dormi cette nuit, je vais être bougon, je serai pas productif, je serai pas efficace. Alors qu'en fait, tu as dormi probablement 5h30, 6h, peut-être 6h30, et ça peut être suffisant pour une personne donnée.
Ce qui m'amène à la question, c'est quoi la quantité de sommeil dont quelqu'un a besoin? Tu as les exceptions qui fonctionnent avec très peu de sommeil, et tu en as d'autres. Je pense que pour la normale, on parle de entre 7 et 8 heures. C'est quoi ton avis là-dessus?
Bien, premièrement, moi, je coupe le sommeil en deux portions de 4 heures. Et je dirais que les 4 premières heures de sommeil sont sûrement les plus importantes parce que c'est là que le corps se répare. Donc, toute notre biologie, c'est-à-dire que nos hormones, les hormones de croissance chez les enfants, les adolescents, on détruit l'adénosine, qui est la fatigue, c'est l'adénosine qui s'est accumulée durant la journée, on la détruit. Donc, le bénéfice biologique, physique, c'est les 4 premières heures. D'ailleurs, les 4 premières heures, quand on regarde une étude de sommeil, on les passe surtout en sommeil lent profond. Puis c'est là que le corps se répare. C'est un petit peu comme si, quand on tombe endormi en phase 3, là, il y a une armée qui vient rentrer partout dans le corps et qui fait le ménage. Comme une usine qui fermerait à minuit.
C'est ce qu'on appelle l'autophagie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors donc, tout se régénère. Par contre, la deuxième partie de la nuit, tu passes plus de temps en sommeil paradoxal. Et ça, c'est la partie de sommeil où, en fait, on appelle ça sommeil paradoxal parce que tu es presque réveillé. C'est la phase où on rêve. C'est la phase REM, Rapid Eye Movement. Et dans cette phase-là, c'est plus le cerveau qui se répare dans le sens de les émotions, la mémoire, tu sais, la partie intellectuelle.
L'intégration des expériences aussi,
oui,
je pense.
Oui, c'est ça. Ça permet finalement, si tu as eu, par exemple, souvent on va rêver à quelque chose le matin, on s'en souvient pas toujours, mais c'était une chicane qu'on a eue dans la journée avec notre patron ou un an. Puis ça nous sert à nous adapter en quelque sorte. Alors, c'est pour ça que ça peut dépendre des gens. Quelqu'un qui va être moins... qui a moins les petites écureuils, là, le petit, comment, tu sais, le petit squirrel, là.
L'hamster,
c'est ça. Alors, donc, il y a des gens, peut-être, que les premières heures, des gens qui travaillent beaucoup physiquement, puis ils vont récupérer en dedans de 4 heures, 5 heures, pour eux, ça va être suffisant. Par contre, si une personne a plus de parce que quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui est pessimiste, qui est négatif, qui est colérique, etc., ou un étudiant qui veut assimiler dans ces heures-là, là, la fin de la nuit, c'est comme tu vas prendre ta mémoire vive, tu vas mettre ça sur ton disque dur, tu vas déposer tes informations dans une mémoire pour aller la chercher plus tard.
Ça, c'est la deuxième partie.
La deuxième moitié de la nuit, on va dire. Okay. Fait que quand tu regardes la première partie de la nuit, là, tu passes. Écoute, le premier cycle de sommeil, c'est pratiquement juste la première heure et demie ou deux heures, c'est pratiquement juste du sommeil profond.
Là, tu as parlé des quatre premiers, des deux cycles, donc le premier cycle de 4 heures. Autrefois, on nous disait, enfin, autrefois, encore maintenant, que le sommeil dormi avant minuit est plus récupérateur. J'ai entendu des choses récemment qui questionnent ça, du moment qu'il y a une certaine routine.
Bien, c'est parce que là, il ne faut pas oublier qu'en toile de fond, une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'horloge biologique, évidemment, qui est le circadien. Et c'est là qu'on voit que les morceaux du casse-tête s'emboîtent. C'est-à-dire que l'être humain, biologiquement, n'est pas si différent aujourd'hui qu'il l'était il y a 1000 ans ou il y a 5000 ans. Là. L'évolution... ça se fait sur des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'années. Alors, on a une horloge interne contre laquelle on peut pas vraiment se battre. Et plus on va être en harmonie avec cette horloge-là, qui sont toutes les fonctions biologiques. Alors, on va donner des exemples. Vers 9 heures le soir, en théorie, mon horloge interne va sécréter de la mélatonine.
Quand il commence à faire noir, donc c'est on ça. Arrête de produire du cortisol et notre cerveau reçoit le message que c'est l'heure de faire de la mélatonine.
C'est ça. Donc, on a un circuit, le circuit de l'éveil commence à se calmer et le circuit chimique du sommeil commence. En plus de ça, tu as la fatigue de la journée qui est l'adénosine qui s'est accumulée, qui atteint son plus haut niveau à peu près à cette heure-là. Donc, la mélatonine va donner le message à ton corps de dire « OK, tu peux commencer à fabriquer un petit peu de GABA, là, qui est l'hormone, le gamma-aminobutyrique acide, là, qui induit le sommeil. Mais c'est pas juste ça. C'est le système intestinal, est fait pour arrêter de fonctionner aux alentours de 22 heures. Après ça, la température de ton corps va atteindre son point le plus bas aux alentours, mettons, de 2 heures du matin. Donc, toutes les fonctions biologiques, que ça soit le système cardiovasculaire, il y a des moments dans la journée où, par exemple, la coordination à 3 heures l'après-midi atteint son maximum. Je regarde, là, le meilleur temps de réaction, c'est à peu près 2 heures l'après-midi. La capacité cardiovasculaire, ça va être 17 heures et ainsi de suite. Donc, notre corps, il y a des choses qui se font, la tension, la pression sanguine, qui suit une horloge contre laquelle l'idéal, c'est de pas se battre puis d'organiser notre vie en harmonie avec ça. Puis ceux qui pensent que ça n'existe pas, je trouve qu'un exemple important, c'est qu'on a pris des gens, on les a isolés à l'abri de toute luminosité pendant des semaines.
Oui, j'avais vu ça. Ouais.
Et ces gens-là, intuitivement, tu sais, à un moment donné, au bout d'une semaine, en noirceur, là, tu sais plus si c'était le jour ou la nuit, mais à plus ou moins 24 ou 25 heures après, le corps, il y a une horloge à l'intérieur. Alors, imaginez que vous avez une horloge puis que vous, vous allez à l'envers de ça. C'est-à-dire qu'à 9 heures le soir, quand votre mélatonine commence à être sécrétée, vous êtes sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone.
J'y venais sûrement parce que là, à 9 heures, normalement, il fait noir même l'été, mais là, avec nos écrans et tout, il fait clair, il peut faire clair à peu près tout le temps. Est-ce que ça a un impact?
Ben, c'est pour ça que parmi les éléments, chez ceux qui ont des problèmes de sommeil, il y en a qui en ont pas, c'est sûr que, par exemple, une heure avant l'heure de sommeil, je dirais que ça se prépare un sommeil. C'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que tamiser les lumières. Ça mm-hmm. fait partie, quand on embarque dans une thérapie où on veut changer nos habitudes, ben, c'est un des éléments. Puis c'est sûr aussi que je ne vais pas lever des poids et haltères une heure avant d'aller me coucher parce que je vais fabriquer de l'adrénaline et puis ça va prendre 3 heures à peu près avant de redescendre.
Avant d'en descendre, OK.
Et quand je parlais, par exemple, la température du corps atteint son plus bas niveau à 2 heures du matin, si ma chambre est chaude, est trop chaude, je viens de combattre, je vais contre mon cycle circadien, ou même, il y a des gens qui prennent, j'ai vu des gens qui disent, ah, moi, je prends un bon bain chaud avant de me coucher, là, puis c'est pour m'aider à relaxer.
On serait mieux de prendre un bain froid, non?
En théorie, oui, parce que,
ben, on n'a pas le goût de prendre
ça un prend...
bain
froid. Non, je le sais.
Il n'y a personne qui a le goût de dire, ben, moi, je vais aller prendre un bain froid là.
Non, mais ça prend à peu près 1 heure et demie après ça. Ton bain chaud avant de te coucher, il te fait perdre 1 heure et demie avant que ton corps puisse redescendre à la température voulue.
Mais quand tu sors du bain chaud et qu'il fait froid dans ta pièce, à ce moment-là, ça va pas redescendre plus vite?
C'est sûr que ça va descendre plus vite, mais à ce moment-là, ce que tu as fait, c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre. Tu sais, t'as mis un frein à un processus biologique quand même. Alors, c'est ça que c'est à éviter dans la mesure du possible. Alors, autrement dit, adopter un mode de vie dans la mesure du possible où on peut le plus possible s'approcher et ne pas être en jet lag perpétuel. Parce qu'en fait, si t'es tout croche dans ta vie, que tu te lèves à midi, que tu vas pas dehors, que tu t'exposes jamais au soleil, que tu fais pas d'activité physique, donc tu n'accumules pas de fatigue, et que tu te couches à 3 heures du matin, à long terme, sur des années, il y a des études qui ont été faites en Angleterre, notamment des études chez des femmes qui travaillaient de nuit.
Oui.
Et puis les taux de cancer du sein étaient pratiquement le double.
Et en Norvège, le gouvernement accompagne des infirmières qui développe un cancer du sein à cause que travaille de nuit, justement.
Exactement. Donc, on voit que... Puis d'ailleurs, on peut se dire, ça, on a une horloge interne. C'est quoi le jet lag? Comment ça se fait que c'est si difficile si tu fais un voyage en Europe puis que tu as un décalage de 7 heures? Comment ça se fait que ça se fait pas dans... que tu n'es pas capable de récupérer ça dans une journée? Parce que c'est contre la nature. OK.
OK. Alors, revenons à... C'est important ce que tu dis là, puis j'aime ton image de jet lag, puis comment tu relis ça au cycle circadien. Est-ce qu'on a tous le même cycle circadien ou est-ce que ça varie d'une personne à l'autre beaucoup? Puis est-ce que le nôtre change au cours de notre vie, au fil du temps?
Je dirais qu'au départ, on a à peu près tous le même cycle circadien avec une variation un petit peu en vieillissant, puis une petite variation au féminin, probablement dû aux hormones, mais c'est léger. Ce qui va être le plus important, c'est de mener une vie qui va faire une espèce de reset continuel de notre cycle circadien. C'est-à-dire de s'exposer à la lumière dans le jour, là, c'est la normalité. Mmh. Puis s'exposer à la noirceur le soir, c'est la normalité. D'avoir une chambre où les fenêtres vont être avec des rideaux qui vont faire que si à 5h30 il commence à faire clair, c'est comment à chaque jour on adopte, par exemple, se coucher à la même heure. Combien de gens vont dire, j'ai pas bien dormi cette semaine, mais là, samedi, dimanche matin, je vais me taper une bonne nuit, je vais me lever à midi. T'sais, j'ai déjà fait ça quand j'étais plus jeune. On vient de se nuire parce que notre cycle, lui, il est tout le temps pareil.
Notre cycle, il bouge pas, lui.
Il bouge pas. Alors, si nous, on change tout le temps notre façon de fonctionner, nos habitudes, parce que c'est une fête, parce que j'ai un party, ou parce que je suis content, c'est le temps de l'impôt, puis je dors juste 4 heures par jour, puis je travaille 12 heures par jour, ça joue sur 7 pendant un mois. Ben, écoute, sur du court terme, ça a été montré que les dommages, ça commence rapidement. Tu sais, les gens peuvent dire, moi, je donne souvent l'exemple, les gens pensent que le sommeil, c'est comme une carte de crédit ou que tu peux mettre des heures en banque puis tu peux dormir pendant X temps puis qu'à un moment donné, tu vas te reprendre, tu vas aller prendre une semaine de vacances. Puis là, tu dis, ben là, je suis correct, j'ai travaillé en fou pendant un mois, ça va
tomber. Et là, tu vas tomber malade.
Ça marche pas. Ça marche okay. pas.
Puis qu'est-ce qu'on répond? Moi, dans mes clients en coaching, j'en ai qui disent, ma mère est comme ça aussi, qui sont des oiseaux de nuit. Ça existe-tu si on... Si...
Ben, probablement que les oiseaux de nuit, je pense que moi, je suis pas loin de faire partie de ça. Je fais partie des personnes qui peuvent dormir 5 heures à 6 heures et j'ai aucun problème et le lendemain, je suis fonctionnel. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça le signe. Moi, j'ai des gens qui venaient me voir qui me disaient « Ah, moi, je dors pas de la nuit, je dors jamais. Ça fait des années que je dors pas. » OK. Vous travaillez dans quoi? Ah, je suis comptable, etc. Ou est-ce que, oui, je fais mes journées. Êtes-vous tout le temps de mauvaise humeur? Êtes-vous agressif, etc.? Non. Ben écoute, vous dormez peut-être 5-6 heures, 5 heures et demie, 6 heures par nuit. Vous êtes un Einstein, un Grégory Charles, je ne sais trop. Des gens connus qui ne dorment pas beaucoup. Puis moi, toute ma vie, j'ai pas eu beaucoup besoin de sommeil. Alors, puis moi, ma femme, si elle dort pas bien une nuit, elle est quasiment dépressive le lendemain. Alors, on s'entend qu'il y a une modulation d'un individu à l'autre sur le besoin de sommeil. Mais on s'entend sur une chose. Les grandes études, là, c'est 7 heures.
7 heures.
À peu près. Et faut penser qu'on dort à peu près 85 % du temps qu'on est couché. Parce qu'il faut penser que quand je me couche le soir à minuit, pendant à peu près peut-être 10-15 minutes, je vais être au stade 1, qui est comme juste la période où, bon, je m'endors-tu, je m'endors pas. Après ça, stade 2, où tu es un petit peu plus profond, mais tu vas entendre tous les bruits. S'il y a ton chien aboie ou s'il y a une auto qui passe dans la rue, tu vas l'entendre. Puis après ça, tu tombes dans le stade 3. Alors, c'est à peu près 85% du temps de notre prétendue nuit de sommeil. Si on fait un journal de sommeil, là, on peut figurer que l'objectif, si tu dors 85 % du temps, c'est bon. Puis ça, il y a les micro-réveils, on se lève par le petit coin, on se réveille un petit peu de bonne heure le matin, des fois, avant le cadran ou avant de s'endormir, ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, peut-être plus selon les okay. personnes.
Avant de commencer notre entretien, tu me parlais de ta femme et de toi. Je disais que j'étais jalouse parce que ta femme, elle s'endort dès qu'elle a la tête sur l'oreiller. Pourquoi il y en a qui sont comme ça, puis d'autres comme toi, comme moi, que ça prend plus de temps sans
s'endormir? C'est probablement la plus grande incompréhension des gens, c'est de dire, OK, comment se fait-il que moi, je mange la même chose, que je mange le même repas que ma femme, la même quantité, ou mon conjoint, ou ma sœur, ou quoi que ce soit. Je me couche en même heure, je me lève en même heure, on fait à peu près les mêmes choses. Puis, en mettant la tête sur l'oreiller, elle s'endort. Et moi, je rumine, me tourne pendant 45 minutes avant de m'endormir. Je me réveille souvent, elle adore bien, etc. Alors, on est porté à se comparer. Alors, tu sais, les grandes notions qu'on a développé pour expliquer les problèmes d'insomnie, ça se divise en trois catégories. Puis on appelle ça les trois P. Alors, la lettre P. Mmh. Alors, il y a des facteurs prédisposants. OK? Alors, les facteurs prédisposants, c'est des éléments qui sont hors de notre contrôle et sur lesquels, honnêtement, je ne peux pas changer grand-chose. Comme par exemple, une personne qui vieillit à 70 ans va dormir à peu près une heure de moins que quand elle avait 25 ou 30
Pourquoi?
Ans. Parce que en vieillissant, parmi les différents déclins de tous les systèmes de l'organisme, malheureusement, la structure du sommeil, les 4 à 6 cycles, puis on va passer moins de temps au stade 3, un peu plus tard. Donc, malheureusement, il y a une fragmentation, puis ça vient avec l'évolution du vieillissement. On va donner un autre exemple. Les femmes. Donc, être une femme, c'est un facteur prédisposant à l'insomnie. Le taux, là, c'est 40 % plus d'insomnie globalement.
40 % plus chez les femmes que...
Oui, que chez les hommes.
Est-ce que c'est vrai juste à la ménopause ou c'est vrai même avant?
C'est vrai. J'ai assisté à une présentation qui était très intéressante. On en déduit que c'est relié aux hormones parce que il y a 4 moments dans la vie d'une femme où elle a plus de problèmes d'insomnie et c'est tous des moments où les hormones sont complètement perturbées. Alors, puberté. On parle de la puberté, on parle de les jours avant les menstruations, on parle après l'accouchement, donc en postpartum, puis on parle après la ménopause, après la ménopause. Et quand on parle de la ménopause, là, c'est 40 à 60 des femmes en ménopause qui ont des problèmes de sommeil. Fait que c'est sûr que quand tu additionnes toutes ces phases-là, ça fait un total de 40%.
Okay. Moi, c'est ma clientèle. Une grande partie de ma clientèle, c'est des femmes en ménopause. Puis bon, c'est quelque chose que j'entends souvent.
Donc, c'est une prédisposition. Puis moi, j'aurais un doute sur un autre point, c'est qu'il y a aussi plus d'anxiété chez les femmes. On parle de 1,7 5 fois plus, puis à peu près la même chose pour la dépression. Puis moi, j'ai parlé à un grand spécialiste du sommeil, professeur Charles Morin, qui me disait que lui, une chose qu'il voyait dans sa pratique, c'est les trois étapes, c'était 1, anxiété, 2, qui mène à l'insomnie, et l'insomnie, 3, mène à la dépression. Donc lui, un pattern qu'il voyait souvent, c'était insomnie causée par, au départ, le trouble d'anxiété, et qu'après ça, une fois que tu fais de l'insomnie, au niveau de l'humeur, vu que tu vas manquer de sommeil paradoxal probablement, c'est que tu vas moins bien gérer tes émotions. Alors, globalement, moi, ma question, c'était, c'est l'œuf ou la poule? Sais-tu, parce que au départ, les femmes sont plus anxieuses, donc à cause de ça, ils dorment moins bien, puis ils sont plus dépressés, ou si on peut, comme c'est relié aux périodes des hormones aussi, j'aurais pas la réponse à ça, mais c'est factuel, c'est statistique, c'est épidémiologique.
OK. On va tantôt, je garde ça pour tantôt, on va revenir aux solutions. Avant d'aller là, j'aimerais ça que tu me finisses les trois P dont tu es en train de parler.
Oui, c'est ça. Ben, alors, c'est sûr que dans les facteurs prédisposants, comme je dis, c'est ceux contre lesquels je peux pas faire grand-chose. Je vais donner un autre exemple. Moi, c'est clair que la caféine, là, je métabolise pas ça. Je prends un café, puis les gens devraient métaboliser ça en 4 heures, à peu près 4, 5 heures. Ben moi, 12 heures après, ça fait encore effet.
Okay.
Donc, c'est un facteur prédisposant personnel à moi, comme d'autres peuvent avoir d'autres prédispositions. Mais dans la deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les facteurs précipitants. Ça, c'est quand même important d'en parler parce que, en fait, c'est... Je divise ça en trois. Problèmes physiques, problèmes mentaux, puis problèmes de substance. Alors, problème physique, on s'entend que quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, là, est pas mal prédisposé à faire de l'insomnie.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas génétique, mais c'est un problème de santé. Quelqu'un qui a des douleurs, qui fait de la grosse arthrite, de la grosse arthrose.
Une douleur chronique.
Exactement. Quelqu'un qui fait du reflux gastro-œsophagien. Puis moi, j'ai des patients qui dormaient quasiment assis, là, qui lèvent la tête de lit. Il y a des gens qui ont des troubles pulmonaires chroniques. Alors, les facteurs précipitants, ça, on peut quand même trouver des solutions médicales avec notre médecin pour nous aider. Alors, tous ces problèmes physiques-là, il y a des gens qui boivent avant de se coucher puis qui se lèvent 5 fois pour aller faire pipi dans la nuit, si on appelle ça de la nycturie, ça fait partie des problèmes précipitants que je devrais essayer d'éliminer et j'ai un certain contrôle là-dessus. En passant, 90% des gens qui souffrent d'apnée du sommeil ne sont pas diagnostiqués.
Donc, il y a
90%. Donc, il y a un paquet de monde qui ne savent pas, qui ne dorment pas bien, puis c'est vrai, puis ils ronflent, puis ils dorment, puis ils sont fatigués le matin quand ils se lèvent. Mais ce n'est pas un somnifère, ça prend, là.
C'est un
CPAP, exactement. Après ça, les problèmes mentaux, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'anxiété généralisée ou de dépression ou de psychose ou de schizophrénie ou de maladie bipolaire. Puis ça, ça se soigne aussi. Donc, faut adresser le problème mental.
À la base.
Et souvent, d'ailleurs, je voyais aussi une présentation d'un psychiatre qui explique que l'insomnie accompagne quasiment tous les troubles mentaux. Puis si tu soignes pas l'insomnie, tu ne peux pas régler l'autre problème et vice-versa. Faut que tu règles les deux de front. Puis, ne pas négliger les problèmes de substance. Alors, la nicotine, la caféine, l'alcool qui fragmente le sommeil ou toutes les autres drogue, entre guillemets, le plus ou moins douce que les gens vont utiliser.
Mais même trop de sucre. Moi, je remarque que si je mange trop de sucre le soir, oublie ça, c'est à peu près sûr que j'ai mal dormi.
Exactement. C'est une substance, en fait. C'est ça le problème de la substance. Mais ne pas négliger non plus, j'appelle ça l'insomnie pharmacologique. Alors, moi, j'ai eu 2 enfants qui ont fait de l'asthme et qui se pompaient au ventolin avant de se coucher, là, qui est du salbutamol, qui malheureusement dilate les bronches, mais fait pomper le cœur puis crée des petites fibrillations. La cortisone, certains antidépresseurs, Bon, les thèmes de nicotine pour la cessation tabagique, on parle de décongestionnant qu'on va acheter, Tylenol Sinus, ben il y a de la pseudoéphédrine là-dedans. Alors, faut regarder aussi, OK, y a-t-il quelque chose que je prends, la prednisone, etc., qui ferait en sorte que, ou des bronchodilatateurs, qui pourraient faire que ça précipite mon insomnie. Puis finalement, après les facteurs précipitants, mais qu'on doit regarder, parce que honnêtement, les prédisposants, si j'ai 75 ans, puis je suis une femme, ben je pars avec deux prises. Mm-hmm. Alors, si je regarde les facteurs précipitants, je vais essayer de les éliminer. Alors, par exemple, si je prends un antidépresseur extrêmement stimulant, comme la fluoxétine, la Prozac, un très bon antidépresseur, mais c'est le plus stimulant. Alors, faut que je dise à mon médecin, écoute, je dors pas bien avec ça, tu peux-tu me changer d'antidépresseur?
Ou tu peux le prendre le matin, ou même là, ça va avoir un effet jusqu'au soir.
Oui, parce que dans le fond, ça dure 24 heures. Les gens le prennent souvent le matin, mais ça dure quand même 24 heures. Puis la dernière catégorie, c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est les facteurs perpétuels. Ça, c'est l'ensemble de toutes les foutues habitudes de vie et d'hygiène de vie et d'hygiène de sommeil qu'on a tous plus ou moins, je veux dire, qu'on fait pas toujours attention. Et on va donner des exemples. La première qui me vient à l'idée, c'est l'obsession des écrans, des téléphones, donc la lumière bleue. Moi, je suis porté, là, pendant des années, je travaillais, puis quand j'arrivais de travailler, puis je fermais ma pharmacie à 10 heures le soir, t'as venu vérifier mes courriels. Tu sais, avant d'aller me coucher, là, je roule mon ordinateur, puis je regarde, puis j'en ai toujours une centaine, là. Alors, c'était comme, OK, ben là, je viens d'arrêter mon horloge de sommeil. Je viens d'enlever la pression sur mon circuit de sommeil. Fait que c'est sûr que je me nuis. Si on regarde, qu'est-ce que je fais avant de me coucher? Est-ce que je regarde un thriller sur Netflix là qui va me garder complètement stressé?
Ou des mauvaises nouvelles.
C'est pas le temps de chicaner avant de se coucher. C'est pas le temps.
Non, c'est pas le temps de chicaner. Moi, je me souviens du temps que j'étais journaliste et puis tu couvrais des catastrophes le soir. Tu vas te coucher. Je vais te dire que c'est pas ce qui est le plus reposant.
Exactement. De pas faire d'activités stressantes, peut-être une, deux heures avant de se coucher selon les individus. C'est sûr que, bon, on a parlé de nicotine, caféine, alcool, on évite tout ça. Un autre exemple, en mesure du possible, d'éviter les siestes durant la journée. Parce que la sieste, elle fait quoi? Le but du sommeil, c'est de faire baisser mon adénosine, qui est ma fatigue. Alors, si je fais une sieste dans l'après-midi, c'est sûr que là, je viens de redétruire de l'adénosine qui met une pression sur mon sommeil. Donc, je viens d'enlever un petit peu, peut-être une partie de mon sommeil ou de ma facilité d'endormissement.
C'est intéressant ce que tu dis là, parce que pendant que je vivais en Europe, j'ai eu à l'époque beaucoup de troubles du sommeil. Et une des choses que j'avais essayé, puis que j'avais fait un reportage là-dessus, c'est la restriction du sommeil. Un médecin anglais qui faisait ça, au départ, tu as le droit à 4 heures couché dans ta chambre. Tu choisis le moment que tu veux, ça peut être l'après-midi, ça peut être la nuit, après ça, tu te lèves. C'est assez radical comme approche.
Oui, ça, je vais peut-être finir là-dessus, parce que dans le fond, ça fait partie de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, les siestes durant la journée, évidemment, trop dormir une journée, la week-end, puis compenser, ça marche pas non plus. Donc, se coucher à la même heure, se lever à la même heure, la chambre, donc la température de la chambre, le bruit, la luminosité. Il y en a même chez certains individus, les champs magnétiques.
Ouais.
Paraît-il que ça peut affecter certaines personnes.
Donc, le cellulaire à côté du lit.
C'est ça. Le cadran lumineux dont on parlait avant. Évidemment, qu'est-ce que j'ai mangé? Moi, je me souviens, même un de mes amis médecins me disait, moi, je me couche le soir, je mange 3 biscuits au chocolat avec un verre de lait. Écoute, ben, moi, si je mange ça, lui, ça l'endort, ça. Peut-être parce qu'il y a du tryptophane dans le lait un peu, mais il dit, ben voyons donc, ça tient pas debout, ça va contre la logique.
Mais c'est pas le crash de sucre, c'est après ton high de sucre, t'as ton crash?
Possiblement. Alors pour lui, ça devient aussi, je pense, un conditionnement. Tu sais, si par hasard un soir t'en manges pas puis tu dors pas bien, tu te dis, ah, c'est parce que j'ai pas mangé avant de me coucher. Mais si j'ai mangé des aliments trop gras, trop de sucre, de fruits, etc., c'est sûr que ça peut nuire à mon sommeil. Évidemment, la routine, dans le fond, la clé, c'est de développer une routine qui est à peu près égale à tous les jours. Maintenant, une fois que les gens ont fait tout ce qu'on leur avait demandé de faire, alors moi je dis aux gens, vous voulez bien dormir, dépenser un petit peu d'énergie dans la journée aussi pour
Bouger pendant le jour. Bouger. Une bonne nuit de sommeil, ça se prépare pendant la journée.
Effectivement, une phrase clé, c'est « ainsi va notre journée, ainsi ira notre nuit ». Si j'ai rien foutu de la journée, puis j'ai pas bougé, puis j'étais assis devant la télévision, puis que je regardais des séries stressantes, ben si l'endormissement ne vient pas, on devrait pas se coucher. Puis là-dessus, ça fait partie aussi des conseils que je donne. Après le cadran, là, une fois que le cadran a été intégré, je dis aux gens, je le sais que c'est tentant. Il y en a même qui me disaient des fois, « Oh, vous m'avez dit de pas regarder le cadran, mais moi, quand je me lève, je voyais le micro-ondes dans le coin. » Puis c'était comme, il fallait que je sache quelle heure il était. T'sais? Et ça, faut perdre cette habitude-là. L'autre point, peut-être le plus important, c'est de se reconditionner à ce que le lit s'est fait pour deux choses dans la vie. Dormir et l'activité sexuelle. Mm-hmm. That's it. En anglais, on dit évidemment « sex and sleep ». Combien de gens sont couchés dans leur lit avec leur tablette, avec leur téléphone, regardent la télévision, lisent, mm-hmm. parlent au téléphone avec des amis ou ont une conversation avec leur conjoint pendant une heure? Il faut que tu apprennes à ton cerveau à dire que « lit » égale « sommeil ».
Fait que même lire avec une petite lumière pas trop forte avant mm-hmm. de...
Même lire, parce que tu veux pas, tu vas quand même lire au moins, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes, peut-être tu vas dormir un peu. Alors là, tu dis à ton cerveau, bon, le lit, là, ça peut servir à n'importe quoi. Alors, ce qu'on veut dans la thérapie cognitivo-comportementale, qui est peut-être la meilleure solution, c'est de reconditionner notre cerveau à ça. Un autre exemple qui fait partie de la même ligne de pensée, si on s'en va se coucher, puis là, je vous dis, regardez pas vos cadrans, mais vous êtes capable d'estimer c'est quoi, 15-20 minutes à peu près, là. Si vous dormez pas au bout de 15-20 minutes, vous vous levez et vous allez faire quelque chose de plate. Pas quelque chose que vous aimez, là. Vous allez repasser ou je sais pas quoi, regarder le canal météo. Non, peut-être pas parce que de la lumière. Mais écoutez le canal météo, mettez le son polyvalent, mais faire quelque chose de plate puis de pas rester au lit sans dormir.
C'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi ça marche pas. Sur moi, quand je dors pas ou même quand je me réveille la nuit, je bouge le moins possible, je respire, je fais des petites méditations, des petites pratiques. Si je me lève, c'est sûr que ça
monte mon énergie. D'abord, au départ, on devait pas aller se coucher si on n'était pas, puis là, je distingue le mot fatigué puis endormi. Mm-hmm. Tu peux être fatigué, t'es fatigué, là. T'as travaillé toute la journée, là, t'es fatigué, mais tu t'endors pas vraiment, mais tu vas te coucher parce que c'est l'heure. Alors, ça, c'est tu devrais pas aller te coucher si t'as pas un signe, là, d'endormissement. Puis on s'est tous endormis devant une émission de télévision.
C'est quoi l'endormissement? On baille à part ça?
C'est souvent, on va être en train de faire quelque chose, puis à un moment donné, moi, je vais lire quelque chose, puis à un moment donné, là, je réalise que je relis la même page. Ça fait trois fois que je relis. Mm-hmm. Puis ça fait 10 minutes que je suis dessus. Là. Il faut que je recommence. Ou même, je manque un bout d'émission de télévision, puis à un moment donné, c'est comme, attends une minute, là, je vais manquer un petit bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends plus l'histoire. Ou, carrément, justement, des signes, on le sent. C'est un peu ce feeling qu'on a quand on se couche, qu'on s'endort vraiment. C'est une espèce de, quasiment de bien-être aussi. Parce que quand le corps sécrète du GABA pour dormir, en même temps, il y a une petite sécrétion de dopamine. Qui est un, tu sais, quand tu t'endors avec un sourire, là, tu dis, ah, je sais que je vais bien dormir, là. Alors, il y a un petit peu de dopamine là-dedans aussi. Et c'est de là que vient la théorie de la restriction de sommeil. C'est que la restriction de sommeil, c'est la phase ultime, c'est l'outil, c'est le bazooka pour les gens qui dorment pas. Moi, j'étais dans une clinique avec des personnes et à chaque semaine, il y avait, à un moment donné, OK, on nous montre une méthode de relaxation, Jacobson, OK, mon bras droit est lourd, droit est chaud, la jambe droite, etc. Mm-hmm. Fait que là, tu revenais puis les gens, la semaine après, ah ben moi, ça a marché. J'ai fait ça, un autre, la semaine après, ah, j'ai fait ça sans marcher. Moi, là, je t'ai rendu dans les derniers, puis elle a dit, bon, là, les récalcitrants, là, les 3-4 qui restent, là, on arrive à la restriction de sommeil. Là, on s'est regardé, on a dit, écoute, je viens ici pour dormir.
Puis on va m'empêcher de dormir.
Vous me dites que vous allez m'empêcher de dormir. Oui. Moi, à l'époque, c'était 6 heures. Ce qu'on disait, là, ils m'ont dit, écoutez, vous allez tous choisir une plage de 6 heures. Bon, moi, j'ai pris minuit 6. ça rentrait bien dans l'heure, il faut que j'aille travailler, etc. Alors là, attention, là, 7 jours sur 7, tout le temps. Ton cadran sonne à 6 heures, fatigué, pas fatigué.
Tu te lèves.
T'as pas le droit de pas te lever. Et t'as pas le droit de t'endormir avant minuit non plus. Même si elle m'en est à 11 heures, t'es là, tu, ah, je suis fatigué. Moi, je dis à l'enfant, là, réveille-moi si je m'endors. Je vous dirai qu'après une semaine, parce qu'on se voyait à toutes les semaines, le groupe, les 3 ou 4 récalcitrants, là, on était cernés. J'ai jamais été cerné de ma vie. J'étais noir. J'étais noir en dessous des yeux. Moi, ça a été la 10e journée. Je me suis couché à minuit et je vous jure qu'à minuit et 20 secondes, je dormais. Et ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et là, je me réveille à 6 heures, mon cadran sonne, je dis, oh my God, c'est qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai rien vu, j'ai rien senti, j'ai dormi. C'est fou. Évidemment, tu as un journal, le sommeil où tu notes. Et à l'époque, si ça n'a pas changé aujourd'hui, quand tu maintenais ce 6 heures-là pendant un certain nombre de jours et tu avais le droit de rajouter 15 minutes.
Oui, tu montes pas à 8 heures.
Non. Là, tu ajoutais 15 minutes. Là, tu dis, OK, je vais prendre minuit moins quart ou 6 heures et quart, j'ajoute 15 minutes. Et là, tu refais la même chose. Puis à un moment donné, tu trouves le point où, mettons que moi, c'était 7 heures. À 7 heures, je dors 85% de mon temps, j'ai dormi dans ma nuit. 8, ça marche pas. 8, là, la dernière heure, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je reste dans mon lit? Puis là, je me nuis en me déprogrammant ou en me
déprogrammant. Tu fais un ancrage négatif aussi.
C'est ça. Puis comme je dis, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait aidés à partir du moment où, justement, ils ont aussi dédramatisé. Ça se peut pas. Moi, j'ai des gens qui sont obstinés à quoi qu'on dit. J'ai pas dormi depuis une semaine. Je dis, vous seriez mort. On parle, là, dans une conférence que je donne sur le sommeil, j'expliquais que le sommeil est plus important que la nourriture pour la survie de l'être humain. Je donnerai pas, il y a trop de gens qui vont être sensibles, là. Je vous dirai qu'avec un certain type d'animal que je nommerai pas, on a fait le test. Alors, cet animal-là pouvait vivre 5 jours sans dormir, entre 4 à 5 jours. Donc, 24 sur 24, tout le temps stimulé. Donc, l'animal ne peut pas dormir. Et le même animal, ou le même sorte d'animal du même âge, etc., pouvait vivre 20 à 25 jours sans manger.
OK.
Alors, on a vu à quel point le sommeil, c'est important.
C'est important.
Puis moi, je disais l'exemple, parce que je posais la question aux gens, OK, vous êtes dans le désert. Vous n'avez pas dormi depuis 3 jours, vous n'avez pas mangé depuis 3 jours, puis je vous donne le choix entre un fabuleux repas, là, tu sais, un beau gros steak frites avec des légumes, tout ça, puis je vous donne le choix entre une bonne nuit de sommeil. Pas mal sûr que la majorité des gens disent, hey, moi, je saute sur le repas, j'ai faim, ça fait 3 jours, j'ai pas mangé. Dans les faits, vous devriez choisir votre nuit de 8 heures de sommeil. C'est elle qui vous sauverait la vie. Beaucoup plus. À quel point c'est un pilier. On dort le tiers de notre vie. Hein?
C'est super intéressant, André, ce que tu nous racontes. J'aimerais ça maintenant, avant d'aller aux solutions, puis comment... T'en as déjà parlé, mais on va continuer tantôt. Combien de temps ça prend à mal dormir avant qu'on en ait les impacts? Bon, juste mal dormir une nuit, déjà on se sent moins en forme. Mais lorsqu'on parle de l'installation des maladies chroniques, des différents problèmes de santé, combien de temps faut mal dormir avant d'en payer le prix?
Bon, si on parle vraiment de ce qu'on va appeler l'insomnie chronique, là, pour laquelle on doit vraiment consulter, là, il y a évidemment une définition selon ce qu'on appelle le DSM-5, là, qui définit toutes les maladies d'ordre psychique. C'est si tu ne dors pas bien au moins 3 fois par semaine, pendant 3 mois consécutifs, sans cause explicable. Bon, je vous donne un exemple. Vous avez un nouveau bébé à la maison. Madame vient d'accoucher, le bébé se réveille à toutes les heures, je sais pas quoi. Ça, c'est pas de l'insomnie. Ou je pensais à un soldat en Ukraine, sur le champ de bataille, il va pas dormir, mais c'est pas de l'insomnie. Alors, si on exclut toutes les causes qui pourraient s'expliquer et que vous ne dormez pas au moins 3 nuits par semaine,
Dors mal.
La définition de l'insomnie, souvent, moi j'explique souvent que ce qui est plate, c'est qu'on peut pas faire une prise de sang. puis dire « vous dormez pas bien ».
Vous êtes insomniaque, voilà. Là.
Il n'y a pas de test biologique. Alors, on est obligé de se fier à la description de ce que le patient en perçoit. Mais les gens qui font de l'insomnie, ils ont tous une perception que ça leur nuit. Mais probablement qu'il faudrait leur poser la question « comment se passe votre journée le lendemain? » Puis moi, je pense que si la journée se passe bien, faut arrêter de fixer des règles comme quoi faut dormir 8 ou 7 ou 7 et demi ou quoi que ce soit.
Ah, ça crée du stress. Ça.
Ou le même nombre d'heures que mon conjoint ou que mon ami ou quoi que ce soit. C'est si le lendemain, vous êtes fonctionnel, vous conduisez votre voiture. Tu sais, les gens qui font de l'apnée du sommeil, on a des signaux, hein. C'est des gens qui s'endorment, ils s'assoient dans une salle d'attente, là.
Puis la tête leur tourne.
S'endorment. Ils conduisent le matin dans le trafic, là, si ça roule pas, là. Puis même si ça roule. Alors, c'est des gens qui ont, ils ont des signes diurnes. C'est-à-dire, dans le jour qui suit. Alors, les gens qui fonctionnent bien, dites-vous que probablement, vous avez peut-être une surestimation de votre insomnie. Par contre, la fréquence devient le facteur clé pour dire qu'il faut avoir une solution, consulter un médecin. Et on sait que dans ces cas-là, la thérapie cognitivo-comportementale dont on a parlé, donc la reprogrammation, diminuer les stimuli, se conditionner au lit, sommeil, etc., ça marche chez minimum 80% des gens. J'ai vu des études jusqu'à 88%, mais mettons qu'on est en haut de 80%, mais il faut maintenir ça dans le temps. Ça, c'est comme un régime pour perdre du poids. Si tu fais attention, tu manges bien, puis tu atteins un poids santé, puis tu le maintiens pendant un an, puis à un moment donné, tu arrêtes. Tu te dis, bon, ben là, à ce temps que j'ai mon poids, je suis correct, là. Mais c'est la même chose. Tes habitudes, c'est t'es faite comme ça. Moi, je peux pas tricher, puis prendre un café à 7 heures le soir. Puis si je triche, je laisse la chance à défaire ma régularité.
Tout ce que j'ai bâti. Ouais. Puis dans ma job de coach santé, c'est mon travail d'accompagner les gens pour mettre en place ces routines-là, puis faire ces changements-là pour que ça tienne justement la route sur la durée. OK. Puis, c'est quoi les problèmes? Là, je sais que la liste pourrait est longue, là, qui arrive avec le manque de sommeil.
Ben, au départ, même, il y a eu un article dans la presse il y a quelques mois là, qui était bon là-dessus, qui disait que même après quelques nuits d'insomnie, il y a déjà un mécanisme où il y a des dommages, en quelque sorte. Et c'est sûr que les dommages vont être plus ou moins grands selon la personne. Par exemple, au niveau métabolique, ça a été démontré qu'il y a un lien entre l'insomnie et l'obésité. Pourquoi? Parce que ce qui favorise l'insomnie, il y a une substance qui s'appelle, en fait, les orexines, là, qui sont responsables de l'éveil et aussi des fringales et de l'appétit. Alors, il y a des gens qui dorment pas bien parce que c'est pas leur sommeil, c'est pas leur circuit du sommeil qui fonctionne pas bien, c'est le circuit de l'éveil qui ralentit pas le soir. Alors, souvent, ces gens-là, ils dorment pas bien, mais ils mangent aussi, ils mangent plus. Parce que l'orexine régularise là, la leptine puis la ghréline, donc la satiété puis l'appétit. Alors, un exemple d'insomnie, ça peut mener à l'obésité ou à un surplus de poids. Okay. C'est sûr que si je dors pas bien, en général, je vais être fatigué le lendemain puis j'aurai pas vraiment le goût de faire de l'activité physique non plus.
Puis tu vas aller chercher l'énergie rapide, des sucres, du junk, sel, gras.
Puis moi, je me souviens, je travaillais le soir, puis je faisais des 12 heures, puis des fois, à 12 heures, à 10 heures le soir, je fermais la pharmacie. Puis j'avais encore du travail, puis là, j'allais manger, aller en avant de la pharmacie, me trouvais une barre de chocolat, puis des fois, avec une petite boisson gazeuse, de poutiner jusqu'à 2 heures du matin. Alors, c'est comme un cercle vicieux. Donc, il y a le problème métabolique, même le diabète de type 2 est relié. Alors, on peut penser que si quelqu'un s'occupe pas de son sommeil adéquatement, c'est certain qu'il va avoir des problèmes, possiblement, éventuellement, d'hypertension, d'obésité, puis de diabète. C'est probablement les trois premiers problèmes qu'on a été capable de relier à l'insomnie. C'est sûr qu'au niveau psychologique, comme la deuxième phase du sommeil s'occupe de nos émotions. Fait que c'est sûr que question de, justement, tendance dépressive, question de, je dirais même, ça va aggraver les douleurs. J'ai donné une présentation sur la douleur il n'y a pas longtemps à l'Association de fibromyalgie, puis j'expliquais le lien entre le manque de sommeil, puis que ça augmentait la perception de la douleur. Parce que le cortex préfrontal, là, qui lui perçoit la douleur, ben s'il n'est pas reposé, là, c'est que malheureusement, ta perception de ta douleur va être augmentée. Alors, tous les petits malaises, on a tous des petits bobos. Alors, puis j'irais presque à dire, avez-vous remarqué que la nuit, mettons que vous avez mal un genou dans le jour, là, dans la nuit, on dirait que ça fait plus mal.
Fait plus mal, oui, oui. Parce il y a l'hypervigilance aussi qui s'installe.
Effectivement. Alors, on peut penser autant physiquement que souvent, les gens pensent qu'un mauvais sommeil, la seule chose que ça va faire, bon, j'ai pas bien dormi, fait que c'est juste les affaires d'humeur puis de productivité. Mais c'est pas vrai, il y a du physiologique aussi qui est affecté. Puis il y a les deux composantes, autant psychologiques que physiologiques, qui doivent être bien réparées par une bonne nuit de sommeil.
On peut réparer ces dommages-là. Quand on choisit de s'occuper de son sommeil, de le mettre en priorité, est-ce que tout est réparable?
Oui, c'est sûr que la question, c'est est-ce qu'on attend 20 ans avant de prendre ça en main?
Oui, non, idéalement.
Il y a des gens qui le font, qui ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur santé. Il y a des gens qui aiment mieux le fameux magic bullet, là, de trouver une pilule qui va... moi, chaque fois que je donnais des médicaments pour l'estomac, des IPP là, des patients, du Lozec, du Dexilan, du Pantalog, je disais tout le temps, OK, combien de café vous buvez par jour? Ah, 5, 6. Bon, ça vous tenterait pas avant, tu sais, corrigez donc vos problèmes alimentaires, prenez-vous de l'alcool, mangez-vous épicé, mangez-vous trop chaud, mangez-vous trop froid. C'est vraiment nécessaire d'apprendre ça à long terme. Mm-hmm. Mais on est faible. Hein? On cherche la facilité.
La facilité.
En fait, ce qu'on veut, c'est prendre quelque chose qui ne va pas nous obliger à rien changer.
C'est bien dit. C'est bien dit.
Et c'est un peu comme ça que la médecine marche par petits morceaux. OK, t'as mal à ton estomac, moi, je vais soigner ton estomac avec quelque chose, mais en arrière de ça, c'était quoi qu'il y avait en amont? Pourquoi t'as développé ça? Pourquoi tu développes de l'insomnie? Tu sais, on disait dans la presse en fin de semaine que les jeunes d'aujourd'hui dorment une heure de moins de sommeil que les années qui ont 60 ans en arrière. Donc, on estime qu'ils ont perdu à peu près une minute de sommeil par année. Mais perdre une heure par jour de sommeil, c'est énorme. C'est énorme. Alors, puis on sait aussi que les horaires d'école sont pas faits en fonction de leur biorhythme, parce que leur horloge biologique dont on parlait précédemment, elle varie selon l'âge. Mais jeune aussi, là, un bébé, ça dort 20 heures par jour, là, hein? Alors, l'adolescent, lui, là, quand l'école commence le matin, s'il est pas prêt, son corps est pas attentif. Alors, on lui demande d'être attentif. On lui demande d'être performant. On lui demande il est sur des écrans, par exemple, qui vont affecter aussi son sommeil. Je suis pas mal sûr qu'il y a des jeunes qui ont leur téléphone en dessous de c'est ça. Alors, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Bon, puis d'ailleurs, on a un exemple typique, là. La personne de 70 ans dort une heure de moins. L'adolescent de 16 ans dort une heure de moins. Mais il y en a un qui peut rien faire parce que c'est des facteurs prédisposants. Tandis que l'autre c'est des facteurs perpétuants. Il peut faire quelque chose. Et la société peut faire quelque chose. Est-ce qu'on met les ressources? Est-ce que dans les écoles, on est prêt à changer les choses, changer les heures? Est-ce que c'est faisable? Mais moi, je pense que c'est ça qui explique que les jeunes d'aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, j'ai regardé l'assurance maladie, là, j'ai regardé les psychostimulants là, entre 2020 et 2022. La courbe là, est à peu près à 40, entre 40 et 45 degrés. C'est 25 % des jeunes aujourd'hui qui ont des problèmes d'ordre, anxiété, dépression. C'est pas normal.
25 % ça veut dire 1 sur 4. Quand tu parles de jeunes, c'est de quel braquet d'âge?
On parle, on commence au primaire.
Okay.
À 7-8 ans. puis on se rend fin là, 18 à 20 ans. Là,
je pense qu'on pourrait faire un balado complet sur l'anxiété des jeunes. On va regarder ça pour une éventuelle idée. André, tu as parlé d'insomnie, tu as brièvement parlé d'apnée du sommeil tantôt. C'est quoi les autres troubles du sommeil fréquents là, qu'on voit le plus souvent?
Ben, si on parle de maladies physiques, en quelque sorte, qui induisent vraiment de l'insomnie, c'est sûr que la plus grosse, la plus évidente, c'est celle-là, c'est l'apnée du sommeil. La deuxième, c'est le syndrome des jambes sans repos. Mm-hmm. Alors, c'est quand même... Je veux dire, ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, là, la personne va être couchée puis peut bouger ses jambes à toutes les 10 secondes pendant certaines phases de la nuit.
Très inconfortable pour le conjoint, la conjointe qui est dans le même lit.
Exactement. Après ça, on a tout, comme je disais tout à l'heure, tous les problèmes, par exemple, digestifs. Il y a des gens que... dépendant de l'heure où ils vont souper puis ce qu'ils ont mangé, il y a beaucoup de gens que c'est leur digestion qui les empêche. Tu sais, normalement, là, tu sais, après 2 heures, là, la vidange gastrique, c'est à peu près 1 heure et demie. Après ça, c'est le fonctionnement intestinal. Bon, c'est sûr que tu devrais pas manger 2 heures avant de te coucher. Mais il y a des gens qui vont manger à 18 heures puis qui vont se coucher à 10 heures puis ils ont une digestion lente. C'est une plainte qu'on a souvent en pharmacie qui dit « Ah, je me suis couché, puis ah, il me semble que j'étais ballonné, il me semble que j'avais des gaz. » Alors, c'est puis les problèmes urinaires, surtout, ça, c'est chez les gens plus âgés, mais certaines formes d'incontinence qui se développent presque irrémédiablement, plus chez les femmes et plus en vieillissant. Alors, s'il faut que tu te lèves dans la nuit, 5 fois, 6 fois, c'est sûr qu'en plus d'avoir déjà 3-4 micro-réveils dans la nuit, si tu ajoutes en plus, tu viens perturber ton sommeil parce que tu as de la nicturie. Même dans certains cas, c'est des gens qui prennent des diurétiques. Alors, tu prends un diurétique, même si tu le prends le matin, parce que tu fais un petit peu d'hypertension ou d'édème, quoi que ce soit, c'est sûr que tu vas avoir automatiquement une forme de réveil dans la nuit qui va être perturbé. Alors, il y a toutes sortes de maladies. Comme je disais, la douleur, c'est un problème. Combien de maladies de toutes sortes? Combien de gens font de l'arthrose, de l'arthrite ou de la fibromyalgie ou, j'ai des patients qui font évidemment de la sclérose en plaques, ainsi de suite. Et tous ces gens-là vont avoir une certaine difficulté, l'hyperthyroïdie. Alors, mm-hmm. si la personne n'est pas... Souvent, c'est long à diagnostiquer l'hyperthyroïdie. Beaucoup plus les femmes. Presque juste les femmes, en fait. Mm-hmm. En pharmacie, là, une Synthroid pour un homme, là, je me souviens pas la dernière fois que j'ai passé ça. Mm-hmm. Et évidemment, ces personnes-là vont faire de l'insomnie, ils vont avoir des intolérances, les questions froid, chaleur, ils vont avoir les cheveux plus secs, etc. Il y a différentes choses.
Perte de cheveux, humeur. Ouais,
c'est ça. Mais c'est un autre exemple de problème physiologique et c'est sûr qu'il faut... Je dirais que la ménopause est un autre exemple. Toutes les femmes, donc la moitié de la planète, arrive à un âge où il y a la périménopause qui va durer...
10-12 ans.
Ouais, dizaines d'années facilement. Chez certains, c'est plus court. Moi, j'ai une fille qui est dans la quarantaine, puis là, elle me dit, ben là, je pense que... Colin, c'est tôt, mais ça commence. Alors, si on met tous les problèmes de santé qui peuvent causer ou perturber le sommeil, c'est sûr qu'il faut d'abord, faut pas dire, j'ai un trouble de sommeil. Le sommeil est une conséquence
d'un autre trouble.
Alors c'est sûr que moi comme je dis, j'ai 2 enfants qui étaient asthmatiques, puis on dirait que la position couchée des fois là, ça déclenchait comme plus de difficultés respiratoires. J'ai des patients qui ont carrément des problèmes. Moi j'ai des patients là que carrément toute la journée, ils sont parfaits. Puis dès qu'ils se couchent, les sinus bloquent. Mm-hmm. Ces gens-là doivent trouver une solution. Pourquoi on pense que ça existe, les fameuses bandes breech right ou les espèces de bandes, là? Mm-hmm. Et ça marche. T'augmentes la grosseur des voies respiratoires, puis les gens... Il y a des gens qui ont réglé leur problème de sommeil avec ça.
Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a on est rendu à un moment de l'histoire puis de la science puis des connaissances où il y a plein de solutions. Là, tu as beaucoup parlé de routine, de mettre en place des horaires de coucher réguliers, éviter le café, chambre noire, chambre froide. Une fois qu'on a fait tout ça, tu es bien placé pour nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut, lorsque nécessaire, évidemment, les différents suppléments ou médicaments pour dormir? Bon, on pense à la mélatonine, le GABA, c'est toi l'expert. Ouais. Qu'est-ce que tu disais à tes clients?
Ouais. C'est sûr qu'on commence tous avec la mélatonine. Pourquoi? Parce que dans le... Tu sais, moi, quand je donnais des formations sur le sommeil, là, c'était très chimique. Tu sais, il y a des substances dans le corps humain qui favorise l'éveil, qu'on parle de sérotonine, de dopamine, d'acétylcholine, de noradrénaline, d'orexine, d'histamine, etc. Donc, il y a une chimie de l'éveil et qui est là, puis on en a besoin. Là. Moi, si je m'en viens, puis j'ai une agression qui arrive devant moi, il faut que je sois capable de courir vite, puis que mon cortisol et que mon adrénaline me donne une force physique. Alors, ça sert à quelque chose, mais... Ce circuit-là, il doit se diminuer graduellement, puis le circuit du sommeil doit embarquer. Or, la mélatonine, il faut qu'elle soit là, et il y a des récepteurs dans le cerveau à la mélatonine. Mm-hmm. Et c'est comme le on va dire la switch en quelque sorte, là, ou le démarreur qui va dire au corps, bon, là, on se met en mode, on calme le circuit de l'éveil. C'est comme un gradateur là, de lumière qu'on baisse tranquillement pendant que l'autre augmente. Alors, si la mélatonine peut aider, c'est sûr que c'est la première chose qui lui vient à l'idée. En passant, ce qu'on n'entend jamais dire, c'est qu'il y a deux types de récepteurs en mélatonine. On va dire type 1, type 2. Et les gens qui ont plus de type 2, la mélatonine va les réveiller. Carrément. Mmh. Alors ça, c'est peut-être 10% des gens à peu près. Fait qu'il faut quand même faire attention. Moi, quand je recommandais de la mélatonine à quelqu'un, je disais, là, je vous le dis tout de suite, là, je vais vous donner, mettons, on va essayer avec 3 mg, mettons, là, bon, ou 6 mg. Et si vous voyez que vous dormez moins bien, arrêtez, vous êtes dans le 10%.
10%.
Il faut quand même le savoir parce qu'il y en a qui vont dire, mon Dieu, je ne suis pas normal ou qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors, ça se peut qu'on ne dorme pas bien. Maintenant, une fois qu'on s'est assuré qu'on a mis le démarrage, qu'on a mis la clé dans, puis qu'on a tourné le démarrage pour le mettre en marche. L'étape d'après, c'est de dire qu'est-ce qui peut renforcer mon GABA, qui est le neurotransmetteur qui dit au cerveau, on ferme les livres et on est complètement au repos. Complètement, mais là, le cerveau, là, il y a une décharge, il y a à peu près 30% des neurones du cerveau qui déchargent du GABA. Alors, je pense à une substance comme, par exemple, bon, la valériane, il y en a d'autres, la passiflore.
Le houblon.
Le houblon, la camomille. Ça, je pense que c'est quand même assez connu, mais pourquoi je nomme valériane passiflore? Parce que c'est celle sur laquelle il y a le plus d'études. En quantité et depuis le plus longtemps. Et ce qu'on sait, c'est que ça, c'est des simulateurs de GABA. C'est-à-dire qu'ils viennent se lier au récepteur GABA au lieu du GABA. Donc, ils augmentent l'effet de notre mécanisme naturel du sommeil. Fait que c'est sûr qu'on s'en va vers ça. Et une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on peut, après ça, aller plus loin puis dire, est-ce qu'on peut paralyser ou réduire aussi le circuit de l'éveil? D'ailleurs, la valériane est plus un renforcisseur, si je peux dire, du circuit du sommeil, mais la passiflore a des qualités de réduire le circuit de l'éveil aussi. Fait que c'est un bon complément. Moi, j'aime la combinaison des deux. Parce que t'as d'autres produits, comme par exemple la théanine, qui va être aussi, lui, c'est pas un somnifère naturel, c'est quelque chose qui calme ton circuit de l'éveil. Fait qu'il faut bien... La comparaison qu'on peut faire, c'est quand tu conduis une voiture, t'as un accélérateur et t'as un frein. Et c'est sûr que, on va dire que l'accélérateur, c'est le circuit
de l'éveil. Sympathique.
Ouais, c'est sympathique qui hyper-excite. D'ailleurs, les gens qui dorment pas bien, le problème, c'est que leur système sympathique est plus actif. Donc, ces gens-là sont en état d'hypervigilance constante. Alors, ce qu'on veut dans un monde parfait, c'est que quand on veut dormir, c'est comme quand je veux freiner ma voiture, est-ce que je vais juste appuyer sur l'accélérateur puis garder... C'est-à-dire, est-ce que je vais juste appuyer sur le frein puis je vais garder le pied sur l'accélérateur? Ben non, je vais faire les deux. Je veux dire, je vais lever le pied
Je suis contente que tu utilises cet exemple-là parce que dans mes coachings, je l'utilise tout le temps. Le système nerveux, sympathique, parasympathique.
C'est exactement. Ouais. Alors, l'idée, c'est qu'il faut que ces deux choses-là se fassent en harmonie. Ouais. Fait que quand quelqu'un ne dort pas bien, ça peut être deux choses, différentes causes, là, mais ça peut être que le circuit du sommeil est défectueux. Et c'est la notion qu'on a privilégiée dans les années 50, avec les barbituriques, après ça, les années 60 avec les benzodiazépines, après ça, les années 90 avec les Z-drugs, donc les opiclones et autres, après ça, et ainsi de suite. Évidemment, tranquillement, dans les dernières, surtout particulièrement dernièrement, il y a peut-être 2 ans, on a commencé à comprendre comment l'orexine fonctionnait. Là, on a commencé à dire, coudonc, les gens qui dorment pas bien, ça se pourrait-tu que leur circuit de sommeil fonctionne très bien? C'est le circuit de l'éveil qui est pas capable
de se mettre à off.
Eh ben oui. Et l'avantage de ça, c'est que il y a beaucoup moins d'effets indésirables parce que quand j'accentue mon circuit du sommeil, c'est bien beau accentuer le circuit du sommeil, mais ça veut dire que quand tu te lèves le lendemain matin là, t'es pas à 100%, là. On fait des études, on met des gens sur des plaques. Mm-hmm. On regarde comment ils bougent. On fait des gens, des études de conduite de voiture. Ils font du louvoiement. Alors, veux, veux pas, quand t'accentues strictement le circuit du sommeil, par, bon, ça peut être de la médication, il y a des gens qui prennent des Gravol, qui prennent du Benadryl, qui prennent... C'est que il y a un petit côté que c'est peut-être pas là que certaines personnes devraient travailler. C'est plus sur le côté... De réduire le circuit de l'éveil. Puis l'avantage, quand tu travailles sur le circuit de l'éveil, en général, il y a un nouveau médicament qui est sorti, l'Emborexant, qui est le Dévigo, il y a à peu près 2 ans, c'est que lui, tout ce qu'il fait, là, c'est qu'il baisse les orexines, qui sont une substance qui donne de l'éveil puis des fringales. Et ce qu'on voit, c'est que le lendemain matin, les gens se réveillent et, en se levant, sont frais et dispo.
Mais ça, c'est le médicament. Y a-t-il des façons naturelles
oui, de réduire? C'est sûr que oui. Je donnais l'exemple de la théanine. La théanine, la L-théanine, c'est une substance qui va pas travailler sur le circuit du sommeil, mais qui va calmer le circuit de l'éveil. Puis toutes les substances naturelles qu'on appelle des adaptogènes aussi.
L'adaptogène. L'ashwagandha.
Exactement. Parce que ça, c'est des substances qui vont aider les deux aspects. Tu sais, ils vont... des fois, les gens ont de la misère à comprendre ça. Mais moi, je vais donner un exemple de pharmacien. Quelqu'un qui a des troubles d'attention, tu lui donnes du Ritalin. Hein, il va être plus attentif parce qu'il en a besoin. Mais quelqu'un qui en a pas besoin, là, il sera pas plus vigilant parce qu'il en a pas besoin. Alors, un adaptogène, c'est un petit peu une substance qui va faire en sorte que selon le patient qui va consommer la substance, ça va peut-être calmer un dépressif, mais ça va remonter ça va calmer un anxieux qui a besoin d'être calmé, puis ça va remonter un dépressif qui a besoin d'être remonté. Mm-hmm. Donc, c'est difficile à comprendre comment la même substance peut sembler faire un effet qui est contradictoire, mais c'est ça. Alors, tous les adaptogènes connus vont aider pour ça. Maintenant, comme je dis, moi, les produits de santé naturelle, c'est comme une étape entre, on essaye tout ce qui est non pharmacologique. Parce que dans bien des cas, ça va marcher. Alors, c'est sûr, quelqu'un qui fait de la méditation, du yoga, de la cohérence cardiaque, qui mange bien, les heures de repos, qui a tout fait ce qui pouvait être fait, puis que ça marche pas, ben, avant d'aller voir le médecin, puis de se faire prescrire quelque chose pour une courte période, on va dire, OK, on va parler de thérapie cognitivo-comportementale aussi là-dedans. Puis après ça, on va dire, est-ce qu'il y a une substance naturelle que je pourrais utiliser? Puis, dans bien des cas, ça marche. Moi, des fois, les gens me parlent de l'effet placebo. Oui, 30% des gens ont l'effet placebo pour la douleur, pour le sommeil, pour les migraines. Bien, ça ne me dérange pas. Est-ce que mon patient est bien? Est-ce qu'il est mieux? Mm-hmm. Est-ce qu'il a réglé son problème? J'ai pas... C'est vrai aussi avec les substances pharmacologiques. Faut pas oublier non plus. Quand on donne un médicament à un patient, le patient, il a confiance. Il y a quelqu'un qui a pris soin de lui. Il a confiance en son prescripteur. Il a confiance à son pharmacien. Il y a aussi une partie d'effet placebo. Ça a été étudié sur les antidépresseurs, là. Puis mm-hmm. Il y a des études qui disent que les effets des antidépresseurs, les ISRS qui sont couramment prescrits, on parle d'un certain nombre de semaines, à la limite de mois après ça. un petit peu un effet placebo, mais si le patient est heureux, il vit bien, puis il est correct, c'est pas grave.
C'est pas grave, OK. Puis après ça, ben il reste les drogues plus dures, là, les somnifères plus dures.
Ouais, c'est ça.
Ceux-là sont très... créent des dépendances, des accoutumances assez rapidement.
C'est sûr que maintenant, la nouvelle norme, c'est que les vrais somnifères, là, je parle des benzodiazépines qui ont été les plus utilisés. Moi, j'ai commencé en pharmacie en 72. Là. Alors, écoute, on achetait ça, des diazépames, du Valium, dans des pots de 5000. Là. C'était des gros pots de même. Là. Puis écoute, tout le monde en prenait. Et ça a fait son temps. Parce que le problème, c'est que ça a un effet de classe qu'on appelle. Ça a un effet sur la mémoire. C'est un anticonvulsivant. Oui, c'est un anxiolytique, mais c'est un relaxant musculaire. C'est, tu veux pas ça. Toi, ce que tu voudrais juste dormir. Mais les 5-6 autres effets qui viennent avec, t'es là. Fait que, puis il y a des demi-vies qui sont très longues. Hey, c'est fou. J'ai encore des patients qui prennent du flurazépam, du Dalman. La demi-vie peut aller jusqu'à 240 heures. C'est 10 jours. Ça, c'est le temps d'éliminer la moitié de la dose que tu as pris.
OK. Aïe, aïe, ça dure longtemps.
Puis en passant, comme je le disais dans certaines présentations, faut pas se leurrer, c'est égal à l'alcool. C'est-à-dire, tu as un effet, la plupart des somnifères de chimie là ont un effet qui est équivaut à peu près à 0,05 d'alcoolémie. Alors, quelqu'un qui prend, que ce soit un antipsychotique, il y a certains antidépresseurs pour le sommeil, la mitriptyline, etc., certains antipsychotiques comme la quétiapine, tout ça, qui sont donnés, ben, les gens sont, dans le fond, dans un effet de facultés affaiblies constant.
Okay.
Et si, évidemment, en plus, ils consomment l'alcool, t'sais, on pense pas à ça, mais est-ce qu'on veut vraiment ça? Puis plus les gens vont vieillir, jeunes, à la limite, c'est plus ou moins un problème, mais on sait très bien que les benzos, là, on augmente à peu près de 4 fois le risque de mortalité, toutes causes confondues. C'est des gens qui ont plus d'accidents de voiture, de noyades, plus de... Tu sais, c'est des gens qui...
Mm-hmm.
Le réflexe est moins rapide. T'arrives pour glisser, puis le temps de t'accrocher à une rampe, quelque chose, t'as pas la fraction de seconde. Alors, c'est dépassé. Aujourd'hui, les médecins vont donner ça pour des périodes de 7 à 10 jours. Parce que, bon, vous passez un décès, une circonstances dans votre vie, ça se peut que vous ayez besoin de ça pour passer au travers. Mais je m'en voudrais aussi de ne pas dire que, écoute, il y a des gens qui doivent en prendre. Les plus grands prescripteurs de benzodiazépines au Canada sont les cardiologues. Alors, les gens qui ont eu un infarctus, une crise cardiaque, un pontage, etc., faut pas que ça soit trop anxieux, ces gens-là, non plus. T'sais. Alors, il y a des gens qui ont eu des agressions, donc qui ont des stress post-traumatiques, des tags, etc. Tu sais, il y a des gens qui doivent en prendre. Mais peut-être que c'est juste 10-15% des gens qui en prennent, 20% des gens. Puis il y a une partie des gens qui ont utilisé ça comme une béquille. Mais est-ce que les gens sont motivés à dire « je pourrais diminuer graduellement » De plus en plus, on a des calendriers de sevrage qui existent. Il y en a différentes sortes. Il n'y a pas un qui est bon pour tout le monde. Une règle générale, je dirais une réduction de 10% de la dose à chaque demi-vie, qui peut être 5-6 jours chaque semaine. Puis c'est pas important, ça peut prendre un an avant de réduire la dose. Mais ce que j'essaie d'inculquer aux gens, puis ça c'est important de le dire, c'est que les gens qui prennent des somnifères ont l'impression de bien dormir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de leur sommeil est probablement moins bonne.
Puis est-ce que c'est vrai aussi pour les nouvelles classes de somnifères dont tu parlais, ceux qui agissent pas sur tous les...
Ça fait pas assez longtemps. Moi, mon expérience de pharmacien, là, c'est que c'est dans 5 ans, là, et peut-être dans 10 ans, on va peut-être apprendre des choses. Mais quand le médicament est sorti en 2021, avril 2021...
C'est quoi ce médicament-là dont tu parles?
Ça s'appelle le nom commercial, c'est Dévigo, puis le nom chimique, c'est du lamborexant. Puis en passant, je trouve ça intéressant, de quelle façon ça a été découvert, ça? C'est que la narcolepsie, et moi, j'ai eu quelques rares patients qui faisaient de la narcolepsie, c'est des gens qui tombent endormis, mais complètement, là, des gens sont en train de jouer aux cartes avec quelqu'un, donc ils tombent la face dans leur assiette. Terminé, ils sont endormis. Et dans les années 90, il y a eu des recherches qui ont été faites sur ces gens-là, puis on dit, mais donc, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Et ils ont trouvé que ces gens-là, il y avait tout simplement moins de neurones qui fabriquaient des orexines. Fait que là, à un moment donné, le chemin s'est fait dans le cerveau des chercheurs. Ils ont dit, OK, ça veut dire que s'il y avait moins d'orexine ou si on inhibait l'orexine dans le corps d'un humain, on créerait une narcolepsie. Donc, le patient, il tomberait endormi.
Induire.
On peut-tu commencer à travailler là-dessus? Et là, ils ont commencé à travailler là-dessus, particulièrement aux États-Unis. Puis le premier médicament a été légalisé au Canada en avril 2021.
Ah, c'est tout récent.
Ah, c'est tout récent. C'est pour ça que, à première vue, là, ça sert le médicament miracle parce que tu touches pas à ton sommeil, tu n'accentues pas ton sommeil, tu diminues ton éveil.
Ton éveil, OK.
Et même, j'ai vu qu'on commençait à penser qu'en diabète de type 2, étant donné qu'on diminue les fringales, ça va peut-être être un outil en diabète de type 2. Étrangement, j'ai commencé à poser des questions. À un moment donné, j'ai regardé dans la pharmacie. J'ai vendu ma pharmacie en 2021, mais je travaille un petit peu encore. J'ai travaillé la semaine passée. Je regardais combien j'avais de patients qui prenaient ça. Là, j'ai vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, j'ai commencé à poser des questions à mes pharmaciens. J'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent ça? Puis j'ai parlé à un médecin, après ça, un autre médecin, puis un autre pharmacien. Étrangement, c'est que ça augmente tellement la phase de sommeil paradoxal. Les gens rêvent, j'allais dire trop. C'est-à-dire, le terme anglais, c'est « vivid dreams ». Les gens dorment mieux et ils augmentent la phase sommeil paradoxal. Puis, il y a des gens qui rêvaient pas. Puis là, ils rêvent, puis ça les effraie un peu. Les gens viennent en pharmacie, ils disent « Là, je me suis réveillé un matin, là, puis là, j'avais rêvé à... » Tu sais, j'étais dans une voiture, dans un accident, puis le feu a pris, puis etc. Alors, étrange, mais c'est vraiment étrange. La seule chose que moi j'ai vue de négative, c'est ça. Alors, est-ce que avec le temps, on va ajuster des espèces?
Non, puis ça va se faire connaître aussi. Il y a l'effet bouche-oreille là-dedans. C'est souvent, OK. André, je vois le temps passer. Avant de te laisser partir, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as vu, tu es au courant d'études qui font des liens entre le microbiote, l'état du microbiote et le sommeil?
Bien, c'est clair que là, ça c'est l'air. Moi, j'avais déjà commencé à... il y a à peu près 4 ans de ça, il y avait eu il y avait une grosse convention à Montréal, à l'Université de Montréal, puis un 8 heures là, pendant lequel les chercheurs nous avaient présenté des études. J'étais tombé sur le dos quand j'avais vu ça. Des chercheurs, notamment, avec des souris, on faisait des tests sur la maladie de Parkinson, notamment, qu'on renversait en changeant de microbiote. La dépression. Alors, c'est clair que on appelle ça le microbiote, le deuxième cerveau.
Cerveau.
Alors, c'est clair que on sait pas trop encore comment ça fonctionne. On peut en avoir une idée. Prenons l'exemple. La sérotonine, c'est ce qui manque aux gens qui sont dépressifs. Puis 90% de la sérotonine dans le corps est dans l'intestin. Alors, quelque part, il faut que le cerveau envoie un message à l'intestin. « Hey, libère-nous de la sérotonine, on en a besoin. » Et mon humeur va s'améliorer. Mm-hmm. Alors, jusqu'où ça va aller, c'est un sujet qui va se développer. Je sais que, je pense à l'Université de Sherbrooke, ils ont fait des tests, là, ils appellent ça des greffes de sel. C'est-à-dire que tu peux prendre une personne qui est dépressée, mm-hmm. Puis tu vas demander, mettons, à sa sœur qui n'est pas dépressée de fournir des échantillons de sel. Bien sûr, on va tout passer ça à un nettoyage biologique. Mm-hmm. On va par voie rectale, on va remplir le modifier le microbiote de la personne déprimée. Et la dépression est complètement, c'est fini. Là.
Oh non, c'est fascinant ce qu'on
dit. L'idée, c'est que ça ne dure pas permanent, ça va durer quelques semaines. Et ton microbiote naturel revient.
Alors, à moins de le changer, à moins de mettre en place les habitudes de vie puis de faire ce qu'il y a à faire
les bonnes fibres, etc., etc. Alors, c'est pour ça que c'est fascinant. C'est là qu'on comprend que il faut que les gens comprennent que le corps humain, le cerveau, le physique, le mental, c'est une chose qui est une chose qui est toute connectée ensemble.
Ça va tout ensemble, puis on a beaucoup plus de pouvoir pour prendre soin de notre santé, puis renverser ou prévenir des états qu'on
parle. Écoute, c'est tellement connecté. J'entendais une femme médecin dire que le premier symptôme du cancer du pancréas, c'est la dépression. Donc, on penserait-tu que notre pancréas, il vient jouer dans notre cerveau? Oui. Mm-hmm. Si tu fais de l'activité physique, le bénéfice, il est partout. Il est dans ton humeur, ton cerveau, ta douleur, ton
poids, sommeil.
Ton sommeil. Donc, l'alimentation, de quoi on se nourrit, l'activité physique, le sommeil, probablement aussi les interactions sociales qu'on a. Donc,
la communauté, un sens à sa vie.
C'est ça. Alors, il faut penser que c'est un tout. Moi, quand je parlais aux gens qui faisaient de la fibromyalgie, je disais la douleur, c'est biopsychosocial.
C'est bien dit.
C'est pas juste biologique. Ça dépend comment vous allez la prendre, comment vous allez accepter vos limites, etc. Puis ça dépend aussi comment vos proches vont réagir. Si tout le monde vous dénigre au travail, etc. Alors, la santé, c'est un ensemble de facteurs, puis il faut pas se focusser sur un point. Le bénéfice va pas être de corriger. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit, hey, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai arrêté de boire du café, puis je dors pas plus. Ouais, t'as-tu juste arrêté de boire du café? Oui. Mais là, c'est pas ça que je t'avais dit. J'avais dit, arrêtez de boire du café. T'as couché à la même heure, t'as levé à la même heure. Ouais, mais je pensais que, non, si tu laisses une faille, tu sais, t'as une clôture, là, pis t'as laissé un petit trou quelque part, là, pis là, ton insomnie
avoir rentré là.
Parce que tu continues à regarder ton écran. C'est difficile parce que c'est une série de barrières. Moi, je mets tout le temps le patient dans le milieu, puis là, je mets des cercles concentriques. Puis je disais, ton sommeil est en haut, là, puis là, regarde les barrières que tu as. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que tu sais, dans le fond, là, si j'avais à résumer facilement une espèce de checklist, là, puis disais, moi, quelqu'un qui dort pas, là, qu'est-ce que j'ai dit de faire? La première des choses, j'ai dit, règle tes problèmes physiques. T'as des choses physiquement. T'as mal à l'estomac, t'as mal aux genoux, t'as mal, tu dors pas bien, règle tous les problèmes physiques que t'as. Deuxièmement, je vais dire, bon, t'as-tu quelque chose d'ordre mental qui peut te perturber? Tu t'es chicané avec telle personne. D'ailleurs, une des choses qu'on nous disait en TCC, là, c'est, il y a des gens, là, ce qui les aide, c'est d'avoir un journal, puis avant de se coucher, ils prennent leur journal et ils écrivent qu'est-ce qui s'est passé de négatif dans leur journée. Et c'est comme si ça ouvrait une fenêtre, puis l'événement, il s'en allait. Puis tu disais, bon, je me suis chicané avec mon boss aujourd'hui ou avec un confrère, et voici ce qui est arrivé. Puis à ce moment-là, tu vas te coucher, puis il n'est plus là. Alors, tous ces petits problèmes-là, d'essayer de les régler. La troisième chose est régler les problèmes de substance. Tout ce qui est substance que vous pouvez consommer, j'ai inclus les aliments. Donc, les sucres, la nicotine, le tabac, l'alcool, le cannabis dans certains cas. Faut oublier que le cannabis, là, il y a une partie du cannabis qui te stimule, le THC.
Oui.
Le CBD qui te calme. Fait que, tu sais, ça se balance, mais au final, moi, je suis pas pour. Il y en a qui me posent souvent la question, je peux-tu dormir avec ça? C'est une béquille. Après ça, éliminez tout ce que vous avez dans votre hygiène de vie, qui sont les fameux facteurs perpétuants qu'on a parlé. Donc, mettez toutes les chances de votre côté.
Et c'est là que la coach santé vient aider.
Exactement. Par la suite, on tombe vraiment... Avez-vous la capacité de consulter peut-être un psychologue puis d'aller vraiment dans une... de suivre une thérapie cognitivo-comportementale? Je regarde les éléments ici. L'hygiène du sommeil, stabiliser le rythme circadien, contrôler les stimulus, réduire l'excitation, promouvoir l'association entre les lits et le sommeil, restructurer les croyances aussi. Les gens qui disent « je dors pas, je fonctionnerai pas », c'est de la surestimation, puis évidemment réduire toute l'excitation physique et psychologique avant le sommeil, tout ça. Puis là, quand on a tout fait ça, je dirais que la prochaine étape, c'est d'essayer un PSN qui va être moins violent.
PSN, produit de santé naturelle.
Un bon produit, évidemment, de bonne qualité avec une bonne dose, parce qu'il y a des produits que la dose sera pas suffisante. Fait que là-dessus, vous demandez un conseil à soit quelqu'un qui s'y connaît, ça peut être
naturopathe
ou même il y a des coachs santé qui ont des bonnes connaissances là-dedans. Là, si vous êtes rendu au bout de tout ça et qu'il y a rien qui marche et en toile de fond, que vous avez encore des problèmes de jour qui démontrent que vous n'avez pas le sommeil dont vous avez besoin, parce qu'il fallait trop garder ça, on n'a rien pensé. Si vous dites « je dors pas », mais que tout va bien dans votre vie, puis que vous travaillez bien, vous êtes performant, bien, c'est parce que vous dormez mieux que vous pensez.
C'est le problème, n'est pas là. Hey André, c'était vraiment super intéressant, super pertinent aussi. Celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin.
Exact.
Puis, tu dors bien aujourd'hui, André?
Oui, écoute, ça a été un choc de devoir passer par des choses difficiles parce que la fameuse TCC, c'est pas nécessairement facile quand tu te rends jusqu'à la restriction. Pour moi, je dis tout le temps aux gens, essayez pas ça demain matin vous-même.
Non.
Conversation, c'est pas de vous donner une recette toute faite puis vous commencez ça demain. Il y a des gens qui ont des maladies physiologiques.
Oui, non, puis c'est pour ça que je prends bien le soin de préciser d'aller chercher de l'aide aux besoins que... ce qu'on fait présentement, c'est une conversation.
Exactement.
C'est pas des diagnostics qu'on est en train
Exactement.
De faire.
Exactement.
OK. Hey, merci Parfait. Beaucoup, André.
Super. Ben, à la prochaine. Merci.
À la prochaine.
Bonne fin de journée.
Toi aussi.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être, et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!